chers auditeurs, chères auditrices de Mets de Résistance Radio Galère 88.4. Voilà, bonjour à tous. Nous sommes partis pour une nouvelle émission avec Odile. Ça faisait longtemps, Odile, qu'on ne s'était pas vu.
Tout à fait, tout à fait.
Plutôt qu'on ne s'était pas entendu.
Heureuse de te retrouver, de retrouver les auditeurs de Radio Galère.
Voilà, et de Radio Mono également, puisque parfois on est diffusé sur la Radio Mono à Châlons-en-Champagne.
Ah, très bien.
Dans la Marne.
D'accord.
Voilà, où il y a aussi des gens inspirés. Alors, Odile, nous savons que tu es très investie la dernière fois dans la politique internationale et dans la géopolitique notamment. Il y a souvent que je te rencontre à des congrès ou des conférences de géopolitique, et je pense que ça doit vraiment être ta passion, mais bon. Et figurez-vous, chers auditeurs, on en a déjà parlé, que Odile est très impliquée. La dernière fois, on avait fait une émission sur le plan Oasis. Et souvent, et ça a été le cas de cette émission sur le plan Oasis, elle nous présente des choses qui sont issues d'une association, un très grand groupe qui est international, dont elle fait partie et pour lequel elle milite activement, du moins bénévolement.
Tout à fait, l'Institut Schiller, absolument.
Alors, l'Institut Schiller, un petit rappel pour nos auditeurs, qui était Schiller ?
Schiller, le poète et penseur et dramaturge allemand, que l'on connaît comme étant le poète de la liberté, qui a vécu à l'époque de la Révolution française, ça c'est très important. Il a été contemporain de la Révolution française, qu'il a soutenu au départ parce qu'il voyait vraiment la fin de l'ancien régime, donc il était tout à fait en faveur de cette révolution. Par contre, il a été, quand il a vu comment ça tournait avec le régime de la terreur, effectivement, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était parti dans la mauvaise direction. Et il a écrit d'ailleurs les lettres sur l'éducation esthétique de l'homme sont en partie une réflexion sur ça. Enfin, ce serait l'objet d'une autre discussion, mais c'est pour le présenter. Et c'est lui qui disait notamment, et c'est un peu notre devise à l'Institut Schiller, qui disait que la plus belle œuvre d'art, c'est l'édification de la liberté politique.
Bravo.
Voilà, et ça c'est très 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 d'actualité.
Représenté entre autres par le triangle franc-maçonnique avec l'œil au milieu.
Ah, alors ça...
on ne peut rien dire.
Ça, voilà. C'est encore autre chose. Mon propos, ouais. Mon propos n'était pas du tout celui-là.
Mais c'est du moins celui qui se trouve au-dessus. On ne peut pas parler de franc-maçonnerie, mais souvent on le retrouve dans la franc-maçonnerie, c'est pour ça que j'en parle. Oui. Mais ce fameux œil que l'on retrouve au sein d'un triangle surplombe quand même la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Ah oui, oui, tout à fait. De toute façon, les loges maçonniques ont joué un rôle considérable dans la Révolution française et puis dans toute l'Europe de cette époque-là. Après, il y avait des loges maçonniques qui avaient une vision très positive des choses. Il y en avait d'autres qui avaient une vision qui était moins positive. Enfin, il y a eu beaucoup... ça c'est encore tout un autre sujet, je dirais. Mais en tout cas, si on pense à des gens qui ont été des grands esprits de l'époque et qui ont été dans la franc-maçonnerie, je pense par exemple à Mozart un petit peu avant ou Benjamin Franklin. Bon, c'est sûr que pour eux, c'était vraiment cette idée de créer des républiques, de créer quelque chose de nouveau qui sortirait du féodalisme européen qui était une horreur en réalité. Enfin, on a tendance aujourd'hui, c'est vrai qu'on, pour beaucoup de gens, c'est un petit peu, c'est des caricatures. Donc on ne se représente plus très bien ce que ça pouvait représenter justement.
Oui. Et d'ailleurs, je vais te poser une question, ça intéressera tout le monde, mais qu'est-ce qu'il représente pour toi, cet œil franc-maçonnique ?
Honnêtement, c'est une question, j'ai pas...
D'accord.
J'ai pas d'avis sur la question.
Très bien.
Tout simplement.
Très bien, très bien. Donc, Institut Schiller, on s'occupe de démocratie, de politique, mais en même temps d'art, et donc ça veut dire d'expression, en fait. Pourquoi on relie les deux ? Tout simplement parce que l'art et la créativité artistique, c'est ce qui permet à tout un chacun d'éprouver pleinement sa liberté, ce fameux principe de liberté qui est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et de pouvoir être soi. On est d'accord ?
Oui, puis c'est un langage aussi, l'art. C'est un langage, c'est pas... l'art se situe pas simplement dans le domaine de la sensation, là où généralement on essaye de le cataloguer d'une certaine manière. J'exprime mes sensations, mes ressentis, etc., etc. Ok, d'accord, oui, ça existe, bien évidemment. L'art passe par le domaine des sens, et évidemment. Mais
Et puis l'art est universel aussi.
L'art est universel et le vrai...
comme les valeurs de la démocratie.
J'irais l'art quand il est vraiment universel, justement, il se contente pas d'être dans le ressenti. Il va aussi dans l'intelligible, c'est-à-dire que en partant du sensible, des sens, il introduit quelque chose qui s'adresse à l'intelligible dans l'être humain qui peut être rendu intelligible. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très important. C'est-à-dire que l'art, le grand art, qu'il soit européen, qu'il soit chinois, qu'il soit indien, qu'il soit de toutes les horizons, eh ben il fait penser. Il fait pas simplement, il ne provoque pas simplement un sentiment
esthétique,
d'esthétique, mais quelque part il ouvre l'esprit.
Il ouvre l'esprit.
Voilà.
Ce qui est d'ailleurs le but de l'esthétique.
Oui, encore que des fois l'esthétique peut en rester à une espèce de jouissance des choses en tant que telles sans aller au-delà.
Il y a deux types d'esthétique. Il y a l'esthétique avec un petit e et l'esthétique avec un grand e. Mais du moins, cette philosophie-là se retrouve un peu dans certaines pratiques d'extrême orientale, comme par exemple en Chine, le pratique du taoïsme. Mm-hmm. C'est très important. On fait vibrer ce qu'on appelle le chi. Le chi, c'est ton énergie vitale, et tu la fais vibrer en pensant à chacun de tes organes, en pensant à ton corps, en étant bienveillant envers ton corps. Et par ailleurs, le corps humain, c'est comme les tomates à qui on fait écouter du Mozart pour qu'elles poussent. Le corps humain est très sensible à ce qu'on appelle les vibrations. C'est une question de vibration, en fait. Hein. C'est un peu le principe, d'ailleurs, de la physique quantique. Ce sont des modulations vibratoires qui ont toujours une certaine esthétique que l'on retrouve dans le taoïsme. C'est-à-dire que le taoïsme, c'est chaque chose est à sa place. Dans un jardin, telle pierre à sa juste place, tel ruisseau à sa juste place, tel arbuste avec ses feuilles à sa juste place, et ça fait une esthétique qui est harmonieuse.
Oui, bon, pourquoi pas, enfin bon, ça c'est encore d'autres sujets.
Oui, après on est dans des sphères.
Oui.
Voilà. C'est vrai que l'esthétique, la beauté, l'art, ça a toujours, alors, du point de vue musical aussi, c'est énorme l'apport de Schiller à la connaissance de certains musiciens, et il a écrit aussi.
Ah ben c'est d'abord et avant toute chose un poète, un dramaturge. Il a écrit des pièces qui sont absolument remarquables, qui aujourd'hui ne sont pas assez jouées. Il a écrit notamment, en fait, ce qui l'intéressait beaucoup, c'était de réfléchir à l'histoire, un petit peu comme l'avait fait Shakespeare d'ailleurs, sauf que Shakespeare l'a fait plutôt du point de vue plus spécifiquement anglais, tandis que Schiller a vraiment réfléchi.
Il voulait être universel.
Pardon ?
Il a voulu être universel.
Alors, il s'est penché sur l'histoire des différents pays européens. Il a, par exemple, en ce qui concerne l'Angleterre, il a écrit une pièce qui s'appelle Marie Stuart. En ce qui concerne la France, il a écrit La Pucelle d'Orléans, qui est l'histoire, en fait, de Jeanne d'Arc. Oui. En ce qui concerne l'Espagne, il a écrit Don Carlos. Oui. Il a écrit aussi, comment ça s'appelle, pour la Suisse, Guillaume Tell, qui a aussi une très, très, très belle pièce. Donc il a essayé de voir dans chacun au travers des idéologies, de l'histoire des différents pays européens, de retrouver des principes communs et d'essayer de parler aux populations de cette manière-là.
À travers des grands personnages.
À travers des grands personnages, oui, en prenant. Oui. Et effectivement, il a fait toute une recherche historique pour essayer de trouver dans les idéologies, dans les cultures de ces différents pays, quelque chose où il pouvait faire comprendre ses idées.
Oui, je comprends. Oui, il a essayé en quelque sorte de faire émerger un langage universel.
Oui, bien sûr. Bien sûr, bah, de toute façon, je dirais les grands écrivains, les grands poètes, les grands musiciens, ce sont des gens qui pensent de manière universelle parce qu'ils cherchent à découvrir. C'est comme les scientifiques, d'une certaine manière, si je puis dire, bien que ce soit deux domaines qui soient différents, parce que c'est deux orientations de, comment dire, on est dans la créativité. Mais dans l'un, c'est un langage qui va s'adresser aux gens d'une certaine manière. Dans l'autre, il s'agit de comprendre l'univers, d'aller de comprendre comment il fonctionne, comment il s'ordonne. Mais dans les deux, c'est d'une certaine manière quand même de s'intéresser aux lois de l'univers et de les rendre intelligibles, soit au travers d'un domaine artistique, soit au travers de la raison, au travers de la compréhension de choses dans le détail et de la découverte de principes physiques universels. Mais c'est deux branches en réalité qui ont la même origine, c'est-à-dire la créativité humaine, la capacité de l'être humain d'agir en tant que créateur. C'est ça qui distingue l'être humain de l'animal. Les animaux peuvent avoir une certaine forme de création, mais en réalité, elle est toujours limitée à ce qu'ils peuvent capter,
circonscrite à ce qui peut relever du domaine de la survie.
Et exactement.
Alors que l'homme, lui, peut aller au-delà.
Tout à fait, parce qu'il y a l'imagination. Il y a l'imagination. Il y a eu d'ailleurs, là, et ça c'est quelque chose qui peut être assez surprenant pour les auditeurs, mais qui est important parce que nous on a été surpris par cet événement. Il y a eu donc la semaine dernière, le 25, le nouveau pape, Léon XIV, a fait une allocution, une homélie sur la place Saint-Pierre. Donc il y avait une foule et considérable, 10 000 ou plus de personnes qui étaient là. Et à un certain moment, il a abordé la question de quelqu'un qui n'est plus du tout connu, qui s'appelle Nicolas de Cuse. Alors Nicolas de Cuse, hormis les spécialistes, personne ne le connaît. Donc c'est quelqu'un qui a été un diplomate, qui a été un théologien, qui a été cardinal, qui a voyagé à son époque un petit peu partout en Europe et qui a joué un rôle considérable, y compris dans la science. Et voilà donc que Léon XIV parle de Nicolas de Cuse et le cite en disant Nicolas de Cuse à son époque, qui était une époque, c'était au XVe siècle, qui était extrêmement tourmentée, il y avait des guerres, il y avait beaucoup d'instabilité, donc c'était vraiment une période extrêmement tourmentée, c'est comme ça qu'il le présente, et il dit Nicolas de Cuse essaye de trouver comment on va parvenir à la paix. Et il développe le concept de la coïncidence des opposés. Et la coïncidence des opposés, c'est de dire de constater tout simplement ce que tout le monde sait très bien, c'est que dans la société humaine, les gens sont rarement d'accord pour 10 000 raisons, parce que les tempéraments sont différents, les cultures sont différentes, parce que les langues sont différentes, parce qu'on n'a pas la même histoire, parce que ceci, parce que cela. Bon, donc il y a des conflits, il y a des guerres, etc., etc. Et lui il dit si on est à ce niveau-là, si on cherche à résoudre des conflits au niveau où ils sont, en entrant dans les détails et en essayant de résoudre les détails un par un, on n'y arrivera jamais. C'est pas possible. Le seul moyen de parvenir à un résultat, c'est de passer à un niveau supérieur et de passer justement dans le domaine des idées. D'un côté, il y a l'un, d'une certaine manière, il y a le multiple. Nous, on est dans la multiplicité. Comment on sort
dans la GN, en quelque sorte. On est dans la GN.
Bon, ça, je ne me risquerai pas, j'en sais rien.
Nicolas de Cuse représente tout simplement la cité de Dieu par opposition à la cité des hommes, c'est-à-dire le royaume des cieux par rapport à l'enfer.
Alors, oui, bon,
nous, on est dans la GN, on est toujours gêné par des petits détails, et alors si on se place sur une dimension supérieure, on peut être au paradis et avoir un meilleur équilibre mental.
Oui. Alors bon, moi je ne suis pas théologienne, donc je me risquerai pas
Souvent, c'est beaucoup plus facile chez les gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent. Mais on peut y arriver sans cela. En tout cas, bonne discipline de l'esprit.
Oui, en tout cas, lui, ce qu'il dit, c'est cette question de la coïncidence des opposés. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut revenir à qu'est-ce qui définit la destinée humaine pour tout le monde, les grands enjeux de l'humanité. Et c'est à partir de là qu'on peut se mettre d'accord. Et ça, c'est très important pour aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, avec ce qui se passe à Gaza. C'est des choses qui sont absolument essentielles. Et il y a une autre personne qui a toujours parlé de cela, c'est Madame Larouche, la fondatrice de l'Institut Schiller, qui revient sans arrêt sur cette idée de coïncidence des opposés. C'est-à-dire on peut avoir tous les désaccords qu'on veut, mais à un certain moment, on va trouver, si on se place au bon niveau, on va trouver un accord. Et il y a une discipline qui fait ça à merveille, qui s'appelle la musique. La musique, c'est de faire de désaccord un accord et une harmonie. Donc, si je puis me risquer à la comparaison.
Parfait. Alors, maintenant qu'on a un petit peu parlé de l'Institut Schiller, on va parler d'Elgazep Larouche, parce que c'est l'épouse de Monsieur Larouche. Et donc, par extension, on parlera un petit peu de Monsieur Larouche avant d'évoquer la prochaine rencontre qui va être organisée le week-end prochain.
Alors peut-être, je vais faire une petite digression.
Je t'en prie.
Si tu me le permets. Parce
je t'en prie.
T'as le droit. Parce que tu disais qu'on se rencontre régulièrement dans différentes conférences. Et la dernière, c'était dans une projection d'un film fait par une personne qui est très engagée par rapport à la question de Gaza et qui voulait présenter l'importance du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui permet d'intervenir, que l'ONU prenne la décision d'intervenir, d'avoir une force d'interposition et de prendre des mesures. Donc ça c'est très important, c'est quelqu'un qui a fait un petit film pédagogique pour présenter ça et donc on s'est rencontrés à cette occasion. Et c'est quelque chose sur lequel, pour nous, qui nous tient beaucoup à cœur, c'est-à-dire que justement l'Institut Schiller, j'ai pris avec moi un certain nombre de déclarations que nous avions faites et que nous avons distribuées d'ailleurs dans les manifestations sur la situation à Gaza. Je crois que j'ai eu l'occasion de dire aussi lors d'une émission précédente que pour nous la solution aussi, suivant le principe de la coïncidence des opposés d'une certaine manière, c'est qu'on ne pourra résoudre la situation à Gaza que si on amène des solutions positives et notamment toute la question du plan Oasis qui procède de ce principe. Et je tiens aussi à préciser que l'Institut Schiller a été à l'initiative, avec d'autres, de la Coalition internationale pour la paix. Et la Coalition internationale pour la paix se réunit tous les vendredis avec des personnalités d'un petit peu partout dans le monde, justement pour informer les gens sur ce qui se passe. Ça peut être, par exemple, sur le danger de la guerre nucléaire, qu'est-ce que ça représente vraiment, comment les décisions sont prises, en ce qui concerne l'arsenal nucléaire, comment ça fonctionne. C'est important, par exemple, pour les gens de savoir, parce qu'ils n'en sont pas conscients, qu'une fois qu'un missile, si par malheur un missile nucléaire est lancé, le pays qui est de l'autre côté, il va avoir entre 5 et 7 minutes pour réagir, pour savoir, pour détecter est-ce que c'est bien un missile nucléaire ou pas. Donc ça veut dire, c'est important ça, parce que ça donne vraiment le sens du danger qu'il peut y avoir à l'heure actuelle. Du volcan sur lequel on est assis d'une certaine manière.
Ouais. Dans un monde où la dissuasion est beaucoup moins importante.
La dissuasion, effectivement, parce que...
La dissuasion fonctionne moins bien qu'avant.
Elle fonctionne beaucoup moins bien, puisque les traités ont été abandonnés. Trump n'a pas renouvelé les traités de non-prolifération, qui va expirer là au mois de février prochain. Donc, effectivement, on est dans une situation très grave, et les États-Unis viennent de décider de réautoriser les essais nucléaires. Donc, effectivement, c'est très dangereux. En face de ça, les Russes viennent d'annoncer qu'ils ont des nouvelles armes qui ne sont pas forcément nucléaires, enfin on ne les connaît pas très bien. Donc disons que là, il y a une montée en puissance qui, que les gens doivent savoir qu'elle est là. Et beaucoup de gens, évidemment, et on les comprend, ça fait très peur, mais la pire des réponses à ça, c'est de se mettre la tête dans le sable, de faire la politique de l'autruche. Et moi, je vois en France beaucoup trop de gens qui font la politique de l'autruche.
On a toujours fait ça, hein ? On faisait ça déjà avant la Deuxième Guerre mondiale ?
Oui, c'est vrai, dans les périodes de grands troubles comme ça, c'est un réflexe, c'est un mauvais réflexe, parce que pendant qu'on fait ça, c'est là où les dernières chances de parvenir à la paix, s'épuisent. Si on est absent de la bataille pour avoir la paix, et bien la logique de guerre, elle, c'est elle qui domine. Et cette guerre devient inéluctable à un certain moment. Donc c'est ça qu'il faut empêcher. On ne doit pas laisser ce danger de guerre devenir inéluctable.
Tout à fait, on est bien d'accord. Donc, alors justement, vous réunissez je voudrais quand même parler de la Coalition internationale pour la paix. Tu dis qu'ils se réunissent, il y a un lien Zoom tous les vendredis, il est à 17h, c'est ça, à 11h du matin?
C'est ça, 17h, heure.
17h, heure française.
17h, heure française, et comme c'est à l'échelle internationale, c'est 11h aux États-Unis. Enfin, c'est une heure qu'on a essayé de faire pour avoir des gens d'un petit peu partout.
D'accord, et à chaque fois, il y a des gens différents?
Ah, ben là, par exemple, je peux donner, il y a un petit trombinoscope, hein, je peux donner une liste des gens qui ont participé, outre Madame Larouche, évidemment. Par exemple, Jack Matlock, le spécialiste de l'histoire et de la culture russe, ancien ambassadeur en URSS sous Ronald Reagan, Naledi Pandor, Afrique du Sud, ancienne ministre des Relations internationales et de la coopération d'Afrique du Sud, Ray McGovern, analyste de la CIA à la retraite et cofondateur du Veteran Intelligence Professionals for Sanity. C'est des gens, en fait, c'est grosso modo, c'est des anciens collègues dans l'orbite de Snowden. C'est grosso modo les mêmes groupes. Je ne sais pas s'ils se connaissaient directement, mais c'est la même démarche. Larry Johnson, par exemple, du même groupe. En France, nous avons eu aussi Olivia Zemmour, qui est très connue, qui est la présidente de la coordination des appels pour une paix juste au Proche-Orient, c'est Euro-Palestine. Nous avons eu l'ambassadeur palestinien au Nigeria, Abdullah Abou Chawesh, Donald Ramotar, l'ancien président du Guyana, Ofer Bronstein, le cofondateur du Forum international pour la paix, envoyé spécial pour le Moyen-Orient d'Emmanuel Macron, donc franco-israélien, etc., etc. Le colonel Larry Wilkerson, qui est quand même très connu, chef du cabinet de secrétaire d'État américain de l'époque, Colin Powell, Jacques Cheminade en France, etc., etc., etc.
À ton avis, à quoi ça peut servir qu'il y ait cette réunion tous les vendredis, à se tenir au courant de ce qui se passe?
Oui, tout à fait. D'une part, premièrement, ça c'est quand même important parce que c'est en même temps, les gens savent beaucoup, mais ils savent les choses de manière éparse, sans avoir les tenants et les aboutissants, sans voir les enjeux de ce qui se passe, sans faire le lien nécessairement entre ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe à Gaza, alors que ce sont deux choses qui marchent ensemble, sans voir l'arrière-plan économique, sans voir la dimension de... Quand je parle économique, c'est par exemple toute la question de la fin du privilège dollar. C'est la question de l'effondrement de la manière dont les pays occidentaux sont à l'heure actuelle en train de se mettre totalement hors course. Et le seul moyen qu'ils ont de se maintenir dans la course à l'heure actuelle, c'est en promouvant une politique de guerre, de va-t-en-guerre. On voit d'ailleurs comment l'Union européenne est terriblement va-t-en-guerre. Donc on désigne des ennemis. On désigne évidemment la Russie comme étant l'ennemi principal, on désigne la Chine comme étant l'ennemi secondaire, alors pas pour tout de suite mais pour un peu plus tard, et on voit bien que l'enjeu de ces guerres et en Ukraine à l'heure actuelle et à Gaza, il va bien au-delà de simples conflits locaux. Hein, ça, c'est totalement évident. Donc l'idée, c'est d'amener des gens qui ont réfléchi à ces questions-là, qui eux-mêmes sont engagés. Tous ces gens-là, d'une manière ou d'une autre, sont engagés pour un processus de paix, et de les mettre ensemble et de faire intervenir des gens de différents pays sur ces questions-là.
D'accord. Mais tous ces vendredis, se retrouvent des gens qui sont quand même des gens qui ont une grande notoriété, qui sont des gens importants, et donc tout le monde peut y assister quand même, même si on n'est pas important et qu'on n'a rien fait de spécial.
Non, là ce sont des orateurs. Après, il y a des gens qui assistent et qui vont poser des questions. Il y a une première.
Il y a des gens qui posent des questions et qui peuvent intervenir.
Et qui peuvent poser des questions. Ils vont pas intervenir comme orateurs nécessairement, à moins qu'ils soient des gens qui aient des qualifications spécifiques pour qu'ils interviennent en tant qu'orateurs. Mais bien évidemment, les gens à qui on demande d'intervenir, on leur demande d'intervenir parce que ils ont autorité sur tel ou tel aspect de la problématique pour intervenir. Hein, c'est pas simplement d'avoir que tout le monde puisse venir s'exprimer sur la voie publique et donner son opinion. C'est pas ça. C'est d'essayer de donner un sens, de fournir tout ce que les médias ne disent pas. On sait très bien que les médias officiels à l'heure actuelle, ils ont une vision totalement unilatérale. Hein, qui est toujours dans un sens et qui ne dit pas aux gens ce qui se passe. Donc les gens, ils ont ils ont une vision totalement biaisée de ce qui se passe. Et à partir de là, on ne peut pas comprendre. Et à partir de là,
par exemple, c'est vrai que tout ce que tu dis, l'Ukraine et la Palestine, on dirait deux problématiques qui sont très différentes l'une de l'autre et qui ne doivent pas être comparées du tout ou confrontées, alors qu'en fait derrière, il y a peut-être les mêmes ficelles qui sont tirées par les mêmes personnes, c'est ce que tu veux dire ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, surtout, si on regarde et l'Ukraine et la Palestine, il y a un point commun. Et ça nous renvoie à toute l'époque coloniale, ça nous renvoie en particulier à l'Empire britannique et à des gens comme Mackinder. Mackinder, c'est une personne qui a théorisé l'idée de l'île du monde, qu'il y avait en fait en Eurasie et spécifiquement en Russie, que qui contrôle cette zone du monde, qui contrôle l'Eurasie, contrôle le monde. Et donc il y a un intérêt stratégique absolument fondamental à contrôler la Russie, à contrôler, parce qu'il y a des richesses absolument phénoménales, ça tout le monde le sait, qui sont totalement inexploitées, et c'est toute cette masse continentale absolument énorme. Donc depuis le 19e siècle, j'ai plus les dates de Mackinder en tête, hein, mais bon, c'est le 19e siècle. Donc cette théorie-là, elle s'est totalement développée, ça a été vraiment le cœur de la vision de l'Empire britannique, de contrôler. De toute façon, c'est cette idée qu'on contrôle les endroits du monde où il y a les ressources. Par exemple, on contrôle l'Inde. C'était toute la politique des comptoirs britanniques de la Compagnie des Indes orientales, qui étaient des entreprises privées, qui pouvaient lever des armées privées, qui avaient des monnaies privées, et qui allaient en Inde pour imposer leur loi, en quelque sorte, coloniser l'Inde et surtout piller l'Inde. Et pour eux, il y a eu toujours eu une obsession, c'est ce qu'on appelle le grand jeu. Hein. Il y a beaucoup d'ouvrages très savants qui ont été écrits là-dessus et qui décrivent comment la rivalité, notamment entre la Russie et la Grande-Bretagne, pour le contrôle, pour la Russie par exemple, la nécessité de pouvoir avoir une ouverture sur les mers chaudes, et pour la Grande-Bretagne, la nécessité de contrôler toutes les routes qui mènent à l'Inde. Et il se trouve que le Moyen-Orient, si vous prenez une carte du monde, c'est déjà une partie du monde qui est absolument stratégique parce qu'elle relie l'Asie, l'Afrique et l'Europe. C'est une plaque tournante. Et du côté de l'Ukraine, l'Ukraine est absolument, là aussi il faut regarder sur une carte, est absolument essentielle parce que c'est un verrou par rapport à la Russie. Donc si on fait sauter ce verrou, évidemment, ce qu'il y a derrière devient accessible. Et donc ça, c'est toute l'idée de pouvoir contrôler la Russie, de la faire éclater en plusieurs morceaux sous un certain nombre de prétextes, de créer donc des entités. Et il y a toutes sortes de plans qui ont été dessinés pour ça, qui existent.
Et, qui émanaient de l'Angleterre, mais pas de la France, jamais.
Alors, là, en ce qui concerne l'obsession de la Russie, c'est plus spécifiquement les Anglais. Je n'ai pas, à ma connaissance, en tout cas, je n'ai pas connaissance de plans similaires côté français. Bon, voilà, peut-être qu'il y en a. En tout cas, moi, j'en ai pas connaissance et j'ai pas l'impression que ce soit vraiment le cas, parce que quand même. Il ne faut pas perdre de vue qu'avant la première guerre mondiale, il y avait eu quand même des accords entre la France, l'Allemagne et la Russie pour la modernisation, l'industrialisation de la Russie. C'est-à-dire que le tsar, c'était...
Nicolas IV ?
Non, je crois que c'était... J'hésite, je veux pas dire...
Nicolas II ?
Nicolas. Je pense, mais je veux pas dire de bêtises. Mais donc, il y avait des accords qui avaient été passés. Pour l'Allemagne, il y avait Sergueï Vite. Pour la France, c'était... son nom m'échappe maintenant. J'ai plus les noms en tête.
C'est pas grave.
Et en tout cas, il y a des accords qui ont été passés, et il y avait cette idée vraiment du développement. Et la France était dans cette idée, était bienvenue. Et c'est pas simplement qu'elle était bienvenue, elle était dans ce trio pour développer, moderniser la Russie, ce qui aurait changé considérablement la donne.
Et ça c'était utilisé, c'était avant la
Première Guerre mondiale.
Ce qui est très amusant, parce que si on regarde bien, mais là on est en train de parler de la paix dans le monde, mais on est en plein dedans. Cette époque qui date de l'avant-première guerre mondiale, donc avant l'assassinat de Ferdinand Joseph Sarajevo, en quelque sorte, hein, ce qui fut le détonateur du premier conflit mondial. Il y avait déjà eu des conflits mondiaux auparavant, mais d'envergure comme celui-ci, et sur le XXe siècle, c'est le premier.
Oui.
Guerre 14-18. Et à cette époque-là, il y avait quand même un paradigme de paix qui était en train de prendre le dessus sur le paradigme de guerre. On était dans une époque bénie et dorée. Il y avait eu la défaite de 1870, certes, mais il y avait eu en 1877 une première conférence internationale pour la paix, lors de laquelle l'organisateur qui représentait la France était Léon Bourgeois. Et qui est d'ailleurs de l'échelon Champagne, là où je fais mon émission, où j'habite. Et puis, il faut savoir que cette première conférence internationale pour la paix, qui à terme a donné lieu à la SDR en 1920, après les armistices de 1919 et 1920, il y a eu, en fait, cette conférence internationale pour la paix à La Haye a été organisée à l'initiative des Russes. La Russie était très favorable à la paix dans le monde à cette époque-là.
Oui.
C'est vrai que l'Empire britannique, qui voulait grossir toujours davantage son entourage, le Commonwealth, a voulu faire comme s'il était dans un monde à part qui grandissait. Il a voulu faire un deuxième monde, et c'est pour ça, en fait. C'est à cette époque-là, on sent que c'est la volonté du Royaume-Uni de se démarquer par rapport à ses grands voisins européens, qui eux sont ensemble et essayent de forger une dynamique pour la paix. Le Royaume-Uni se démarque en pensant qu'à lui et à sa protection. Et quelque part, je me demande si c'est pas en grande partie cela. Et l'hégémonie anglo-saxonne, la volonté d'hégémonie des anglo-saxons, aidée notamment par les États-Unis et des organisations peut-être un peu raciales comme le Ku Klux Klan, qui ont conduit à ce qui n'est pas la paix dans le monde et ce qui est ces deux grands conflits.
C'est
et notamment au Troisième Reich en Allemagne.
C'est surtout, en fait, la Grande-Bretagne, c'est l'exemplification d'une vision impériale. Et la question de comment on considère, ça nous renvoie à une autre question, donc je vais faire une digression, mais il y a deux manières de considérer, en fait, qu'est-ce qui fait la richesse dans une société, si on veut le voir comme ça. Il y a, pour certains, la richesse, c'est typique, par exemple, avec les physiocrates, tout vient de la possession de la terre, possession de matériel, possession des richesses minières, possession, oui, tout simplement de la terre. À l'époque, on connaissait pas le pétrole et tout ça, donc c'était plus limité, on pourra dire. Hein.
Oui.
Voilà. Après, il y a une autre école de pensée, et il se trouve que cette école de pensée, elle est d'ailleurs très française, puisqu'elle est illustrée en France par Jean Bodin. Jean Bodin, c'est un économiste du XVIe siècle, et qui a écrit les livres de la République, je crois que c'est les 6 livres de la République, dans lesquels, lui, il dit explicitement « il n'y a de richesse que d'hommes ». Il n'y a de richesse que d'hommes. Donc c'est pas la terre, c'est pas la possession de biens matériels ou quoi que ce soit. Il n'y a de richesse que d'hommes. C'est-à-dire plus il y a d'hommes, plus on est riche. Mais c'est pas des hommes comme ça, c'est pas des troupeaux en quelque sorte. On est bien d'accord. Lui quand il parle de il
n'y a
de
richesse inférieure, c'est comme quand on dit avec chaque vieillard disparaît une bibliothèque.
C'est un peu, oui, d'une certaine manière, oui. Mais ça veut dire quelque chose de très important. Si on part de ce point de vue-là, si on dit il n'y a de richesse que d'hommes, ça veut dire que cette richesse, il faut effectivement en prendre soin, déjà. Ça veut dire il faut l'éduquer. Donc ça veut dire la santé. Bah,
quelque part, c'est quelque chose de quand même très chrétien.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que très certainement, ça vient de là, très certainement. Oui. À partir du moment si on dit dans le christianisme, et je suis sûr que c'est très certainement dit la même chose, peut-être d'une autre manière dans les autres religions, en tout cas dans les religions abrahamiques, dans les autres religions, je ne sais pas. Mais si on dit que l'homme est créé à l'image de Dieu, quelque part, ça a quand même des implications. Qui sont pas anodines.
Vu comment on traite les hommes et comment on se traite les uns et les autres, pauvre Dieu, alors qu'est-ce qui doit être maltraité si on est à son image?
Donc pour revenir à cette question de la richesse de l'homme, ça implique des formes de société qui sont radicalement différentes et radicalement opposées. C'est-à-dire que ce qui intéresse une société où vous dites la première des richesses c'est l'être humain, c'est comment vous allez créer les conditions où cet être humain va pouvoir se développer et créer et faire en sorte que justement ce qu'il y a de plus précieux en lui s'exprime, et vous avez intérêt à ça. Pourquoi? Parce que ça enrichit la société, ça la rend meilleure, ça la rend plus accueillante, tout le monde en bénéficie. Si vous dites la première des richesses c'est la possession, bah dans ce cas là il faut surtout pas que les gens soient trop éduqués. Vous avez intérêt à ce qu'il y en ait le moins possible, qu'ils viennent surtout pas vous casser les pieds, et que s'ils sont dans la misère et dans la pauvreté la plus abjecte, c'est très bien, c'est impeccable. Voyez, et donc là, c'est l'illustration de l'Empire britannique et l'illustration de ça dans ce qu'il a réalisé sur le terrain. L'exemple le plus énorme, c'est l'Inde. Il faut étudier ce qui s'est passé en Inde. Il faut étudier comment ça a été fait. Et je pense que les gens ne connaissent pas.
Tu peux nous en parler un petit peu?
Par exemple, les familles.
On va, si tu permets, oui. On fait une petite rupture musicale. J'avais pensé à la flûte enchantée de Mozart.
Ah oui, pourquoi pas, oui. Ouais, pourquoi pas.
La flûte enchantée.
idylle. On reprend après cette petite parenthèse musicale. Je ne pouvais mettre que Mozart, puisque tu m'as parlé de lui, qui était franc-maçon et qui a notamment beaucoup inspiré Schiller. Tu nous as parlé tout à l'heure de ce que les Anglais avaient fait en Inde. Tu peux nous raconter rapidement ?
Bah, très rapidement.
Ça m'intrigue.
C'est cette politique de pillage, mais très organisée. Ce qui est tout à fait remarquable en termes d'organisation, c'est que l'Inde, c'est quand même un pays qui est absolument énorme. Et en fait, ils ont réussi à tenir l'Inde avec très peu de force. Et en instituant des systèmes, par exemple, le système des Maharajas, le système des castes. Alors ça existait auparavant en Inde, mais ça n'avait pas la dimension, de fer, si je puis dire, que ça a pris sous l'Empire britannique. Donc ils ont réussi à créer des conditions où, effectivement, ils pouvaient dominer un pays, notamment aussi en propiciant les élites. Les Anglais ont toujours été très bons dans leur vision coloniale en éduquant des élites à leur vision du monde et en les propiciant, ce qui fait que ces élites étaient le meilleur relais sur place de leur vision, et en ayant un système économique qui était basé vraiment sur cette idée de faire en sorte d'avoir le savoir-faire pendant qu'on le retirait aux gens sur place. Par exemple, l'exemple le plus connu, c'est celui du coton. C'est-à-dire que le coton, la culture du coton, alors je ne sais pas s'il le cultivait déjà auparavant, ça je n'en sais rien, mais en tout cas, l'Inde produisait beaucoup de coton. Et le coton, une fois qu'il était produit, il était envoyé à Manchester, il était envoyé en Angleterre. Et les Indiens avaient l'interdiction absolue de filer le coton, d'où le fait que de Gandhi, quand il a fait donc toute la bataille pour l'indépendance de l'Inde, le symbole c'était justement le rouet, parce que le rouet c'était reprendre le contrôle du filage du coton. Donc c'était un symbole très très fort. Et en fait les gens qui étaient pris en Inde à filer le coton sous l'Empire britannique, on leur coupait les mains par exemple. C'était vraiment quelque chose d'une brutalité, d'une sauvagerie absolument totale. Et l'autre aspect qui est aussi très connu, c'est toute la question des famines. C'est-à-dire que sous l'Empire britannique, il y a eu, je ne sais plus, je crois, une vingtaine de famines. Là encore, je n'ai pas les chiffres précis en tête. Mais donc, il y a eu des millions de personnes qui sont mortes pour des famines totalement organisées de A à Z. Au même titre, par exemple, que ce qui s'est passé avec la famine en Irlande. Et la famine en Irlande, c'est une réplique juste à leur porte de ce qui se faisait en Inde. Et c'est vraiment fascinant d'une certaine manière. Enfin, quand je dis fascinant, pas en termes positifs, mais en termes négatifs, de regarder comment, en ce qui concerne l'Irlande, comment cette famine a été organisée, c'est hallucinant. Il y a quand même la moitié de la population irlandaise. On ne sait pas le nombre exact de morts en Irlande, mais ça a été des millions. Et en tout cas, entre les gens qui sont morts et les gens qui ont dû partir, qui sont partis d'Irlande, ça a été la moitié de la population. C'est pour ça que, par exemple, il y avait une très forte population irlandaise en Amérique, aux États-Unis. Kennedy, etc., etc. Voilà. Mais pour revenir sur l'Inde, ça c'est vraiment les faits les plus saillants, plus des boucheries absolument immondes et des pratiques totalement immondes. Alors ils avaient imaginé, par exemple, c'était avec les... Comment on les appelait Bon voilà, j'ai un trou de mémoire, désolé. Ils avaient des troupes, notamment des troupes musulmanes. Et donc ils avaient imaginé à un certain moment, ils avaient des cartouches où il y avait de la graisse de porc. Et il y a eu une révolte parce qu'il fallait à cette époque-là, pour ouvrir les cartouches apparemment, il fallait porter la cartouche à la bouche et sans doute retirer, je ne sais pas, une pellicule, enfin je ne sais pas exactement. Et donc les soldats musulmans se sont révoltés parce qu'on les obligeait à faire quelque chose qui allait contre leur croyance religieuse. Et donc, cette révolte-là a été réprimée d'une manière, mais avec une brutalité, une sauvagerie absolument incroyable.
Donc, je te crois. C'est beaucoup de violence.
Beaucoup de violence, mais une violence vraiment sadique.
Sadique.
Sadique et en même temps calculé.
Ouais.
Donc, c'est ça, la vision d'empire, quand un empire essaye de s'imposer, et que, quand il est basé sur cette idée de la possession, et à un certain moment, ce n'est plus simplement la possession matérielle, il ne se satisfait plus de la possession matérielle des choses, il veut aussi posséder les gens en tant qu'individu.
Tout à fait. On prend, en fait, c'est là qu'on se met à prendre les gens, non pas comme des hommes sources de richesse en eux-mêmes, mais pour du bétail.
C'est ça. D'où l'esclavage, d'où ce genre de choses.
Toutes les formes d'esclavage ont existé, c'est-à-dire de mise en travail forcé d'un individu ou d'un groupe d'êtres humains, ils viennent de cette philosophie-là. En fait.
Alors, je ne sais pas, parce que il y a eu des... Quand on regarde la question de l'esclavage, dans les pratiques de l'esclavage, c'est souvent aussi, dans certains cas, dans certaines cultures, c'est aussi par rapport à la dette. S'il y avait des gens qui étaient endettés et qui ne pouvaient pas, rembourser leurs dettes, ils se retrouvaient dans la servitude. Je pense qu'il y avait des différences, mais de toute façon, au bout du compte, on revient toujours à la même chose, c'est-à-dire justement cette question de la dette, d'une certaine manière. C'est-à-dire que l'argent prend le dessus sur la personne humaine.
C'est ça. Merci beaucoup, Odile. Il nous reste plus énormément de temps, finalement, pour parler de vos réunions. Alors, d'abord, avant d'en venir à la réunion du week-end prochain, qui, celle-ci, est une réunion du groupe Schiller, à son initiative. Alors, non, attends, tu vas l'expliquer. Oui, tu vas l'expliquer. Oui, oui. Mais elle dure 2 jours, et ça peut intéresser les gens qui habitent sur Paris, parce que c'est à Paris. Oui. Je voulais juste dire que la Coalition internationale pour la paix, si on veut assister à ces réunions du vendredi à 17h, qu'est-ce qu'il faut faire sur Internet? Parce que nos auditeurs, ils n'ont pas de QR code.
Oui.
Ils entendent. Donc, ils écoutent.
Il faut aller sur le site de l'Institut Schiller.
Site de l'Institut Schiller, chers auditeurs.
Institutschiller.org. Et il y a un onglet, il y a un menu déroulant où vous verrez la coalition internationale. C'est dans Action. Et vous verrez donc la coalition internationale pour la paix. Et
là, vous avez. Institutschiller.org.
Voilà.
Action, voilà. Et ensuite vous sélectionnez Coalition internationale pour la paix et vous aurez tous les liens pour tous les vendredis à 17h où vous voulez vous connecter.
Voilà, il figure dessus.
Si vous aviez envie de parler avec des chefs d'état-major, des anciens amiraux, des ambassadeurs ou des ministres de différentes nationalités, n'hésitez pas, et puis il y a un traducteur en plus.
Oui, la façon dont ça se passe, c'est qu'il y a généralement une demi-heure de présentation, et une demi-heure, ça peut varier, c'est pas toujours à la minute près, et ensuite, donc, ça c'est public. Et après, c'est en privé, les gens discutent entre eux, donc il y a des questions qui sont posées, et puis il y a un modérateur, voilà.
Et donc, merci beaucoup, Odile. Je pense que ça va intéresser plein d'auditeurs, que ce soit à Marseille ou à Chalon-Champagne, d'avoir cette possibilité d'entendre parler de géopolitique et de ce qui se passe dans le monde actuellement sur différents sujets qui peuvent être des sujets aussi bien sanitaires que militaires, que stratégiques, que géopolitiques ou économiques ou sociologiques. Voilà, je vous laisse découvrir. Maintenant, on va parler du week-end prochain. Qui est un week-end parisien où l'Institut Schiller, comme il le fait souvent, s'inscrit dans le cadre d'une action plus élargie d'un groupe, d'une autre organisation, pour s'inscrire en tant qu'association dans le débat. C'est bien ça, dans le débat et la présentation. Est-ce que tu peux nous expliquer?
Alors, en fait... on va faire un événement. Alors c'est pas nous qui l'organisons, c'est Solidarité et Progrès, qui est le parti de Jacques Cheminade avec lequel nous avons des contacts, où on fait des partenariats. Et donc là nous avons une délégation de l'Institut Schiller international qui sera présente avec des Danois, d'Allemagne, on aura pas beaucoup de monde, mais on aura 2-3 personnes. On aura des gens d'Amérique latine, une grosse délégation des États-Unis.
Cette fois-ci, les gens en personne, hein, pas en dématérialisé.
Voilà, exactement. Et donc, pour amener toutes les problématiques qui concernent l'international, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez ce qui se passe en France, la situation en France est, comme tout le monde le sait, assez désastreuse, pour dire le moins, mais il est de plus en plus clair qu'elle ne peut pas se résoudre simplement au niveau français. Je crois que c'est quelque chose qui est devenu pour les gens extrêmement clair. C'est-à-dire que si on n'aborde pas la dimension internationale, il n'y a pas moyen de trouver de solution, y compris pour ce qui se passe en France.
Tout à fait, on est tous tellement imbriqués, voilà. Nous dans l'Union européenne, mais aussi dans les échanges mondiaux.
Voilà.
Et donc, on le voit bien avec le Mercosur et les échanges, traités de libre-échange avec l'Amérique du Sud. On s'en sort plus, quoi.
Voilà, exactement.
Quand un agriculteur se suicide chez nous, parfois c'est lié à des choses qui se passent bien loin dans le monde.
Carrément.
De manière indirecte. C'est en quelque sorte de l'effet papillon à l'envers, parce que normalement l'effet papillon c'est toujours positif.
Oui.
Mais chez nous, l'effet papillon, ça ne l'est pas forcément toujours. Maintenant, aujourd'hui, on l'a remarqué. Hein. Tu as compris ce que c'est. Tu sais bien ce que c'est que l'effet papillon.
Bien sûr.
Il suffit d'un bruissement d'ailes d'un papillon à un coin de l'hémisphère,
ouais,
pour que sur le coin opposé à des milliers de kilomètres de là, ouais, on ait des répercussions.
Oui, tout à fait, mais là c'est beaucoup plus concret, hein. Tu parlais de l'agriculture, tu parlais de Mercosur, et c'est vrai que c'est la mort pour nos agriculteurs en France, hein, et pour les consommateurs aussi, parce que les gens vont se retrouver avec des produits importés selon des normes qui ne sont pas du tout celle que nous avons en France, avec des exigences, on pose des exigences.
Alors par exemple, tout à fait. Est-ce que par exemple ce type de thème-là sera évoqué pour que les gens puissent en discuter
Non, malheureusement. Là,
non. Non. Sur quoi portera ce congrès?
Le thème, le titre, c'est l'émancipation de l'Afrique de la majorité mondiale, un défi pour l'Europe. Et ce qu'on veut dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il y a les BRICS, il y a un nouveau paradigme qui est en train de se faire à l'autre bout du monde. Et
qui comprend la Russie.
Et qui comprend la Russie, c'est pour ça qu'on parle de la majorité mondiale.
Et la Chine.
Et voilà, la Chine, 1,5 milliard d'habitants, l'Inde, je crois que c'est à peu près autant, la Russie, bon, c'est moins, l'Afrique, je ne sais pas à combien ils sont rendus, mais donc il y a une majorité mondiale qui est là, qui, elle, veut le développement, et ce n'est pas simplement qu'elle veut, c'est qu'elle le fait. Elle part de très 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 bas, donc il y a un travail absolument gigantesque à faire, mais elle le veut. Et si nous, Européens, on est suffisamment bêtes pour perdurer, pour continuer dans une approche de, comment dire, très très arrogante, très comment dire, qui ne veut pas lâcher du lest par rapport à sa vision historique, alors on sera totalement, c'est nous qui serons expulsés de l'histoire, non pas comme c'est Sarkozy ou Macron, je sais plus, qui avait parlé d'Afrique en disant que l'Afrique était hors de l'histoire, je m'en souviens plus maintenant, qui avait sorti ce truc absolument invraisemblable.
Je crois bien que c'était Emmanuel Macron, mais je suis pas sûre. Enfin, ouais, je me souviens qu'à l'époque où Nicolas Sarkozy avait pris le pouvoir, au contraire, c'était tout le contraire. Il avait essayé de mettre en avant l'Afrique en disant, en inversant justement les termes France-Afrique et en faisant Afrique-France. Et il avait dit que c'était là au contraire, bien au contraire, l'Afrique. Il y avait même les programmes scolaires qui avaient changé.
Oui, t'as raison.
On avait supprimé certains passages, notamment l'égyptologie, pour la remplacer par l'histoire de l'Afrique.
Oui, 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 t'as raison. C'est peut-être parce que
c'était l'époque où Yannick Noah parlait beaucoup de son pays et de l'Afrique.
C'est peut-être l'histoire récente qui me fait mettre l'actualité brûlante qui me fait mettre Sarkozy là-dedans. Mais enfin, bref, en tout cas, cette vision qui est assez hallucinante quand même. Voilà. Donc là, on est au pied du mur. C'est-à-dire, en tant que Français, en tant qu'Européens, ou bien on se remet quand même un petit peu les idées à la place, la tête à la place, d'une certaine manière sur les épaules, ou effectivement c'est nous qui allons sortir de l'histoire. Et je pense qu'il y a quand même un certain nombre de pays qui, pour des raisons souvent très intéressées, sont en train de considérer ça. Je vois par exemple que l'industrie allemande Ils ont un grand syndicat de l'industrie allemande. Eux sont en train de faire les yeux doux à l'Afrique. Donc ils sont en train de dire il faut qu'on change totalement notre logiciel par rapport à l'Afrique. Et ils veulent essayer de... Ils raisonnent suivant le terme. Bon, voilà, nous, l'industrie allemande, il faut qu'on puisse faire des projets, qu'on puisse accompagner les gens sur place, qu'on puisse... ils laissent entendre peut-être des transferts de technologies, des choses comme ça. Mais bon, il est temps, d'une certaine manière. Enfin, minimalement, parce que vous avez des pays qui sont dans une pénurie totale et le besoin de développement, il est là. De toute façon, ce développement, il se fera avec nous ou sans nous, mais il se fera. Ça, c'est sûr et certain, ça prendra plus ou moins de temps. Le danger, cependant, qui peut venir contrecarrer ça, c'est évidemment le danger d'une guerre mondiale. Voilà. Et ça, si on a une guerre mondiale, c'est sûr que si on se trouve dans une logique de guerre, cette guerre deviendra forcément nucléaire. Et dans une guerre nucléaire, il y a une frappe, il n'y en a pas deux. Hein. Enfin, ou il y en a peut-être deux, si, ou deux ou trois, mais après, on n'en parle plus. La question est réglée. Donc l'idée de ce thème, c'est ça, c'est de donner une vision du futur. L'Afrique, c'est le continent du futur, et ça va de pair aussi avec le fait qu'on va avoir tout un panel avec les jeunes. C'est les jeunes qui vont prendre la parole sur la question justement de la science et sur la question de l'art en particulier.
Ça va être intéressant alors.
Voilà, voilà. Et c'est aussi un des thèmes justement que les jeunes eux-mêmes ont souhaité aborder.
Très bien. Mais écoute,
là pour le coup, comme ce n'est pas l'Institut Schiller qui organise cet événement, même si on est invité, hein, du coup, il faut aller sur le site de Solidarité et Progrès, c'est Solidarité et Progrès tout attaché .fr. Et donc ou .org .fr et donc et oui .fr c'est bien ça et donc c'est en première page de toute façon ça peut pas être vous pouvez pas le rater
donc deux sites à aller voir solidaritéetprogrès.fr pour la prochaine rencontre à Paris un congrès et puis un autre qui est un autre site qui est le site de la Coalition internationale pour la paix.
Non, là, il n'y a pas de site en tant que tel pour la Coalition internationale pour la paix.
Ah, c'est pardon.
Sur le site de l'Institut Schiller.
Ah oui, le site de l'Institut Schiller, pardon, et le site Solidarité et Progrès. Sur ces deux sites-là, vous trouverez alimenter vos réflexions sur la géopolitique d'aujourd'hui. Le vendredi après-midi à 17h, tous les vendredis, en récupérant le lien de connexion sur l'onglet Action du site de l'Institut Schiller. Et puis, par ailleurs, vous pourrez, dès le week-end prochain, venir participer à deux journées très importantes et très intéressantes où on vous parle justement des enjeux de l'Afrique dans le monde, du développement de l'Afrique dans le monde. Et de son extension, de l'extension de sa sphère dans à peu près sur un peu tous les continents, un retour africain, pourquoi pas, sur le site de Solidarité et Progrès.
Voilà. Et je peux peut-être juste dire.
Oui, juste deux minutes.
Deux minutes très rapidement pour conclure, parce qu'il va y avoir tout un panel, évidemment, spécifiquement consacré à l'Afrique. Et donc, pour donner une petite idée, par exemple, la première personne qui va intervenir s'appelle Prinsim Tonbeni. C'est la fondatrice d'un groupe qui s'appelle Africa for Nuclear. Et c'est une spécialiste donc de l'énergie nucléaire pour l'Afrique. C'est une jeune femme, très jeune, très dynamique, franchement assez extraordinaire. Elle est sud-africaine et donc elle se bat justement pour amener l'énergie nucléaire en Afrique. Voilà, donc ça c'est un exemple parmi d'autres.
Très bien. Certains pourraient contester, c'est comme pour le Mercosur, d'aucuns pourraient contester cette vision et dire que l'énergie nucléaire c'est pas forcément bien. Donc nous ne disons rien dans cette émission, nous restons neutres, que ce soit sur les politiques agricoles ou sur le nucléaire, l'utilisation de la production d'énergie nucléaire comme point central de production énergétique dans un pays. On ne se prononce pas, simplement, ben, ce sont des questions qui seront évoquées lors des conférences.
Princine Mtonbeni, elle, s'est prononcée, parce que justement l'Afrique du Sud vient d'annoncer que l'énergie nucléaire sera incluse dans le mix énergétique de l'Afrique du Sud, et surtout ce qui est, enfin bon, ça ce sera encore un autre sujet, mais tout à fait passionnant, c'est-à-dire que eux, ils veulent faire des petites unités, donc parce que c'est très vaste quand même le nucléaire, il y a toutes sortes de choses, voilà, et donc c'est très important, y compris pour des secteurs tels que la santé, l'industrie, les isotopes médicaux par exemple, dans le domaine de la santé, des choses comme ça. Donc là aussi, il y a tout un débat à voir sur le nucléaire, à qui on a fait une très mauvaise presse, mais qui est aujourd'hui devient un élément central pour préparer le futur.
Merci Odile, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais je te reverrai volontiers quand tu veux pour d'autres émissions, parce que c'est vraiment toujours passionnant avec toi.
Merci.
Et puis vraiment, t'es intéressante, t'as beaucoup de culture et c'est très agréable.
Ben, merci beaucoup, en tout cas, et puis merci aux auditeurs.
Bonne soirée à tous.
Et prochainement.
Mais oui, on fera bientôt une autre émission. On fera le bilan de la conférence.
Voilà.
Chers auditeurs, excellente semaine à vous. À très bientôt. Mm-hmm.